Vous écoutez, on lit pour vous.
Plus de femmes sur les conseils d'administration, mais pas à la haute direction. Une dissonance coûteuse pour les entreprises. Un texte de Louise Champoux-Payet et Anne-Marie Croteau, paru le 8 décembre 2025 dans La Conversation. 10 ans après les premiers engagements pour une meilleure parité dans les conseils d'administration, les femmes restent largement absentes des postes de direction. Une dissonance qui fragilise la gouvernance et freine l'innovation au sein des organisations. Dans le dernier rapport des autorités canadiennes de valeurs mobilières sur la représentation féminine aux postes d'administrateurs des conseils d'administration et de membres de la haute direction, on y note que la présence féminine dans les CA s'est progressivement améliorée au cours des 10 dernières années pour atteindre 29 %. Pendant ce temps, la présence féminine aux postes de haute direction est demeurée des plus modestes, 5 % pour les postes de chef de la direction et 16 % pour ceux de chef des finances. Mentionnons en outre que, toujours en 2025, près de 40 % des entreprises ne comptent aucune femme au sein de leur haute direction. L'écart entre ces deux types de fonctions stratégiques dans les organisations sur le plan international reflète la même situation. 36 % au CA, 12,2 % à la haute direction et 6,5 % comme chef de la direction. Sue Duke, responsable de la politique publique mondiale chez LinkedIn, décrivait la problématique en ces termes. Alors que l'économie mondiale se transforme, que l'IA s'accélère et que les pays cherchent à lutter contre la stagnation de la croissance, ce déficit de leadership devrait déclencher la sonnette d'alarme. Dissonance entre représentation féminine au CA et à la haute direction. Le conseil d'administration et l'équipe de haute direction sont deux organes intimement liés. Le premier voit à la supervision et aux orientations stratégiques d'une organisation, tandis que le second s'occupe de leur réalisation concrète. Or, la dissonance entre la composition d'un conseil d'administration et celle d'une équipe de haute direction peut entraîner des dysfonctionnements sur la gouvernance, la vision, les décisions stratégiques, la culture et autres dimensions corporatives. Ainsi, une orientation paritaire dans la promotion et le recrutement d'employés approuvée par le conseil d'administration pourrait rencontrer des obstacles dans sa réalisation. On peut également penser qu'une orientation inclusive retenue par un conseil d'administration mixte pourrait difficilement trouver une oreille attentive au sein d'une haute direction homogène, celle-ci ne pouvant être sensible ou ne voyant pas concrètement les avantages d'une mixité dans la composition de la main-d'œuvre. Enfin, on peut estimer, à titre d'exemple, que la transformation requise pour l'implantation d'une culture organisationnelle inclusive pourrait être moins bien appuyée ou effectuée avec moins de conviction par une haute direction non mixte. Avantages d'une masse critique de femmes à la haute direction. La diversité de genre stimule l'innovation, améliore la prise de décision et renforce la résilience organisationnelle. Déjà en 2016, une étude publiée par le National Bureau of Economic Research, NBER, indiquait que le leadership féminin améliore la performance des entreprises, en particulier lorsque la proportion de femmes dans la main-d'œuvre est élevée. Des études plus récentes confirment les bénéfices tangibles d'une plus grande parité dans les équipes de direction. Un rapport de 2023 de McKinsey & Company démontre que les entreprises ayant une diversité de genre dans leur haute direction affichent une performance financière supérieure, une culture organisationnelle plus saine et un impact social accru. Autant une masse critique de femmes au sein des conseils d'administration permet d'améliorer la prise de décision et la vision par les perspectives complémentaires qu'elles peuvent apporter, autant une présence accrue au sein de la haute direction d'une organisation a des effets bénéfiques sur le plan de sa gouvernance. Une organisation favorisant cette forme de parité est reconnue pour sa capacité d'innovation, une gestion des risques plus prudente, une performance financière plus résiliente, une plus grande ouverture au changement et à l'innovation, de même qu'une culture organisationnelle plus inclusive. Vers l'imposition de quotas, la sous-représentation des femmes à des postes de haute direction est préoccupante et ne semble pas évoluer à la hauteur des talents disponibles. Sur un horizon d'un peu plus de 5 ans, le nombre de femmes occupant le poste de chef de la direction est demeuré relativement le même, tout comme le pourcentage de femmes occupant les fonctions de chef des finances en 2024. Par ailleurs, le pourcentage d'entreprises qui, selon ce même rapport, s'engagent à se fixer des cibles à atteindre en regard de la mixité de leurs équipes de direction était de seulement 7 % en 2024, comparativement à 44 % pour les conseils d'administration. Pour assurer la survie de nos organisations dans un monde complexe et incertain, il est impératif de s'extirper de la composition traditionnelle de nos conseils d'administration et des équipes de direction constituées majoritairement d'hommes ayant des profils similaires. Il faut une plus grande mixité d'hommes et de femmes avec des parcours diversifiés, ouverts aux nouvelles idées et centrés sur les besoins de l'ensemble des parties prenantes. L'idée d'imposer des quotas au sein des équipes de direction commence à faire son chemin à l'international. En France, une loi adoptée en 2021 impose aux entreprises de plus de 1 000 employés d'atteindre 30 % de femmes dans les équipes de direction d'ici 2027 et 40 % d'ici 2030. Cette mesure législative semble déjà produire des effets positifs, car une analyse récente de l'EDHEC Business School indique que les quotas ont contribué à améliorer la perception des actionnaires envers les femmes dirigeantes en France. Dans cette optique, vu l'urgence de la situation et le peu d'appétit de nos organisations pour la fixation de cibles en regard de la haute direction, des quotas s'imposent au niveau des équipes de direction afin de compter sur le levier stratégique nécessaire pour assurer la pérennité de nos organisations. Un levier stratégique incontournable. Comme l'avance le Collège des administrateurs de sociétés dans son livre blanc intitulé « Vers un cadre élargi de gouvernance », les crises systémiques qui marquent notre époque exigent une redéfinition de la création de valeur. Celle-ci ne peut plus se limiter à des indicateurs financiers traditionnels, mais doit s'ancrer dans une vision élargie de la pérennité organisationnelle et de ses écosystèmes. Dans cette perspective, la parité au sein des équipes de direction devient un levier stratégique incontournable. Elle enrichit la gouvernance en favorisant des décisions plus nuancées, une meilleure gestion des risques, une plus grande capacité d'innovation et une culture organisationnelle plus inclusive. La diversité des profils, notamment en matière de genre, permet de mieux répondre aux attentes des parties prenantes et de renforcer la légitimité sociale des entreprises. Ainsi, au rôle classique de conformité et de stratégie s'ajoute désormais une responsabilité élargie, celle de bâtir des organisations résilientes, équitables et durables, capables de créer de la valeur pour l'ensemble de leur écosystème. La parité, loin d'être un simple objectif de représentation, devient une composante essentielle de cette nouvelle gouvernance. C'était Plus de femmes sur les conseils d'administration, mais pas à la haute direction. Une dissonance coûteuse pour les entreprises. Un texte de Louise Champoux-Payet et Anne-Marie Croteau, paru le 8 décembre 2025 dans La Conversation.
Apprendre le français comme résolution pour la nouvelle année, un texte de Lehi Huongvu, publié le 8 janvier 2026 dans Le Franco. Renforcer son identité ou favoriser son intégration professionnelle et culturelle sont des raisons courantes pour prendre la résolution d'apprendre ou d'améliorer son français en début d'année. Les personnes qui font ce choix doivent cependant trouver des façons de contrer certains défis, surtout en contexte minoritaire. Divine Lobemanga confie que sa résolution pour la nouvelle année est de renforcer sa capacité à s'exprimer en français particulièrement à l'écrit et à l'oral. Continuer à utiliser le français est une façon de préserver la diversité culturelle du Canada. C'est un défi, mais aussi une fierté, affirme la résidente des territoires du Nord-Ouest, d'origine camerounaise. Sarah Lipo, résidente de l'Ontario, a aussi le but d'apprendre davantage le français comme résolution de 2026. À ses yeux, le français est un véritable moyen de se comprendre et de se connecter à autrui. Elle soutient que l'apprentissage du français lui a permis de trouver sa voie et de proposer aux autres une occasion de s'ouvrir à ses idées. Pour elle, cette résolution est une quête de soi. Continuer à apprendre le français, c'est continuer à trouver et à affirmer ma voix. Intégration professionnelle et culturelle pour d'autres, la motivation est ancrée dans les réalités académiques ou professionnelles. Tran Duc Ngoc Nguyen, une récente diplômée vietnamienne en éducation au Manitoba, révèle son intention d'accroître ses compétences en français pour l'année à venir. Elle veut continuer d'apprendre le français afin de pouvoir enseigner dans un programme d'immersion française. Ayant appris un peu de français durant son enfance au Vietnam, elle tresse aujourd'hui le besoin de se rapprocher des langues officielles de son pays d'adoption. « Je veux en apprendre davantage sur le Canada, la culture, les gens et la langue. » Cette soif de compréhension culturelle est également présente chez Dianica Barker, originaire de la Barbade et installée en Alberta depuis 2021. Sa principale motivation est de pouvoir s'exprimer oralement et de comprendre les autres francophones. Face à une réalité linguistiquement minoritaire, Sarah Lipo observe que vivre dans une région majoritairement anglophone rend les occasions de parler français plus rares, mais elle soutient que c'est justement ce qui le rend, parler cette langue, précieux. La faible exposition quotidienne à la langue demeure quand même un des principaux obstacles à l'apprentissage, dit-elle. Il faut rechercher activement les occasions de parler en français pour y remédier. Dianica Barker est d'accord avec Sarah Lipo sur ce besoin. Il peut être difficile de découvrir et d'accéder aux espaces francophones, surtout quand on est seul. Elle précise, « L'un des plus grands défis est de pouvoir pratiquer l'expression et la compréhension orale, surtout parce que je vis en Alberta et que je ne suis pas vraiment entourée de francophones. » Tran Duc Ngoc Nguyen partage aussi ce sentiment. Elle explique que sa famille et ses amis parlent principalement le vietnamien ou l'anglais. Je n'ai pas de partenaire ou d'amis avec qui pratiquer. C'était « Apprendre le français comme résolution pour la nouvelle année », un texte de Le Hai Yong Vu, publié le 8 janvier 2026 dans Le Franco.
Mon calme n'est pas mort ici. Un texte de Dave Noël, paru le 17 décembre 2025 dans Le Devoir. La plaque commémorative indiquant l'endroit où Montcalm est mort au lendemain de la bataille des Plaines de Braham induit les touristes en erreur depuis plus de 25 ans dans le Vieux-Québec. Le général français n'est pas décédé au 47 rue Saint-Louis, mais au 59, dans une maison appartenant aujourd'hui au ministère de la Défense nationale. Le bâtiment en pierre de grès, érigé à compter de 1705, est l'un des secrets les mieux gardés du Vieux-Québec. Des bals somptueux et des jeux de hasard indécents y ont été organisés dans la dernière décennie d'existence de la Nouvelle-France, marquée par la guerre de la conquête. Le rez-de-chaussée de l'édifice comprenait autrefois une grande salle, deux cabinets de travail, une cuisine et quatre chambres. Des miroirs étaient fixés au-dessus des manteaux de cheminée, ce qui témoignait d'un grand luxe pour l'époque. Cette résidence était animée par Angélique Péan, que les historiens du 19e siècle ont surnommée malicieusement la Pompadour du Canada. Elle s'était fait une petite cour de personnes de son caractère qui, par leurs égards, méritèrent sa protection et firent des fortunes immenses, écrit son contemporain Louis de Courville. Le salon de Lélie était notamment fréquenté par les officiers de l'armée française du Canada, à commencer par Montcalm, qui était loin de se douter qu'il y terminerait ses jours dans d'atroces souffrances. Angélique Péan était pleine d'esprit, d'un caractère assez doux et obligeante, selon les mémoires du notaire Louis de Courville. Abri anti-bombe. En 1758, l'hôtel Péan est vendu au chirurgien André Arnoux pour 30 000 livres, l'équivalent du salaire annuel de Montcalm à ses débuts au Canada. Angélique y demeure toutefois jusqu'à l'arrivée devant Québec de la flotte d'invasion britannique transportant le corps expéditionnaire du général Wolfe en juin 1759. Un abri anti-bombe est rapidement aménagé dans la résidence. Les voitures manquent pour les fortifications, mais non pour voiturer les matériaux nécessaires pour faire une casemate chez Mme Péa, dénonce l'officier d'artillerie Montbéliard. Quelque tragique que puisse et doive être le dénouement de tout ceci, on ne peut s'empêcher de rire. Les historiens qui ont visité les voûtes de la maison Péan au début du 20e siècle ont perçu dans l'épaisseur, hors de l'ordinaire, de ces murs des traces de blindage. Le Devoir a eu la chance d'arpenter ce souterrain mystérieux qui a alimenté les fantasmes du romancier victorien William Kirby au tournant des années 1870. À travers un dédale de pièces enduites de crépi, on aboutit à une porte carrée menant à un lieu d'entreposage. On y découvre un alignement de pneus et de jouets pour enfants appartenant aux occupants des étages supérieurs. Aucune trace, toutefois, des sommes détournées par François Bigot, l'intendant de la Nouvelle-France, dont Angélique fut la maîtresse avec l'accord tacite de son mari. En venant sur nos pas, on remarque un système de chauffage à l'eau chaude dont les tuyaux se perdent dans le plafond. On y aperçoit le dessous du plancher de bois du rez-de-chaussée où Montcalm est mort. C'est le plus près que nous pourrons aller. Les occupants des appartements administrés par l'Agence de logement des forces canadiennes ayant refusé leur accès au Devoir. Après conquête. Selon un rapport de Parc Canada, le rez-de-chaussée de la maison Péan a conservé l'esprit de l'occupation de l'espace du régime français à travers ses vestibules et ses cloisons intérieures. On y trouve en outre un foyer de la fin du 18e siècle. La demeure semble avoir échappé aux bombardements britanniques de l'été 1759 qui ont détruit 80 % des bâtiments de Québec. Elle aurait vraisemblablement été protégée par la fortification surélevée du Cavalier du Moulin, situé dans l'axe des projectiles lancés à partir de Lévis. « Au moins, je ne verrai pas les Anglais à Québec », aurait déclaré Montcalm en apprenant qu'il ne survivrait pas à ses blessures. S'il avait tenu le coup un peu plus longtemps, le marquis aurait peut-être croisé le général britannique James Murray, qui a déposé ses malles dans la maison Péan à la suite de la reddition de Québec le 18 septembre 1759. Passée de main en main, la maison a été lourdement endommagée en 1796 par l'incendie de sa toiture. On en a profité pour rehausser l'édifice d'un étage. La conservation de son enveloppe du régime français est perceptible dans la pierre, sa subdivision intérieure et l'emplacement de la porte d'entrée, indique une analyse de Parc Canada. En 1811, l'armée britannique acquiert la maison Péan pour y loger des officiers en garnison. Elle a conservé cette fonction pour les forces canadiennes. Jusqu'en 2021, on trouvait à son encoignure un grand orme, dont les racines avaient recouvert une bombe du 18e siècle plantée dans le sol en guise de chasse-roue. Maison Montcalm. Blessé au bas-ventre lors de la déroute des Plaines d'Abraham, le général Montcalm franchit les remparts de Québec en passant par la porte Saint-Louis. Ses soldats le raccompagnent jusqu'à la maison Péan, où il meurt le lendemain matin d'une inflammation du péritoine. Angélique Péan est absente, ayant quitté la ville au début de l'été. Au soir de sa mort, le général est inhumé non loin de là, sous le plancher de la chapelle des Ursulines de Québec. Le lieu du décès de Montcalm est révélé dans les mémoires de son aide de camp, le chevalier de Johnstone. Les historiens ont toutefois mis du temps avant de repérer l'endroit. François-Xavier Garneau fait ainsi mourir Montcalm entre les murs criblés de boulets du château Saint-Louis, la résidence du gouverneur de la Nouvelle-France. Les regards se tournent rapidement vers la maison Jacquet, présentée comme la « Montcalm House », sur les premières cartes postales de Québec. Cette dernière est ensuite supplantée par une autre résidence de la rue Saint-Louis, dont la renommée naissante ne l'a pas empêchée d'être rasée à la fin du 19e siècle. C'est sur le bâtiment reconstruit à cet endroit, au 47 rue Saint-Louis, qu'une plaque a été apposée en 1999 par la ministre de la Culture Agnès Maltais et le maire de Québec Jean-Paul Lallier. Ces concepteurs n'ont visiblement pas tenu compte des travaux de l'historien Philippe Babie-Casgrain, qui a produit une brochure fouillée sur le sujet dès 1903. La Ville de Québec n'a reçu qu'une seule plainte en lien avec cette plaque dans les 25 dernières années. Elle est venue d'un citoyen convaincu que Montcalm était plutôt décédé dans la maison Jacquet. C'était « Montcalm n'est pas mort ici », un texte de Dave Noël, paru le 17 décembre 2025 dans Le Devoir.
Le lavage s'invite en laboratoire, un texte de Sarah Champagne, paru le 22 décembre 2025 dans la presse. Ils sont tous les deux des génies dans leur domaine. Ils sont un couple dans la vie comme en affaires. L'ingénieur biomédical Fiona Milano et l'ingénieur en informatique Maxime Dimitstein ont mis au point un procédé pour nettoyer les instruments de plastique de laboratoire contaminés qui servent aux expériences biomédicales, au lieu de les jeter. Leur invention s'étend à la vitesse de l'éclair dans les laboratoires de recherche en santé publique de la grande région de Montréal. Chaque semaine, des seaux pleins de plastique contaminé ayant servi aux recherches biomédicales arrivent dans leurs locaux pour ensuite ressortir comme neufs, prêts à être réutilisés. Les bacs de récupération de leurs jeunes pousses, Phoenix Impact, sont présents dans 35 laboratoires, entre autres au centre de recherche du Centre hospitalier de l'Université de Montréal, dans les labos du Centre universitaire de santé McGill et dans ceux de l'Institut de recherche clinique de Montréal. Ex-étudiante à Polytechnique Montréal, Fiona Milano se souvient qu'elle jetait aux ordures jusqu'à 3 kg de matière plastique par jour quand elle menait des recherches dans les laboratoires universitaires. C'est écologiquement irresponsable, dit-elle. Gaspillage. À chacune de mes fins de journée en laboratoire, je ressentais un malaise face à tout ce gaspillage, se remémore-t-elle. Certaines fioles sont jetées alors qu'elles n'ont contenu que de l'eau. À force d'en parler à Maxime, qui vivait encore en Belgique à ce moment-là, on a eu le déclic pour réduire l'empreinte carbone en laboratoire. Le couple a fini par se réunir pour de bon au Québec. Il a inventé une laveuse industrielle dédiée aux fioles, tubes, embouts de pipettes, bouchons, couvercles et plaques de pétri utilisées en microbiologie pour la mise en culture de micro-organismes comme les bactéries E. coli, Escherichia coli, mais non pathogènes. Ces plastiques sont généralement fabriqués à partir de polycarbonate ou de polystyrène difficilement recyclables et bannis des bacs classiques de récupération à cause des risques sur la santé et l'environnement. Les deux entrepreneurs ont enfilé gants et blouses blanches pour offrir une démonstration à la presse dans leurs installations dans un immeuble industriel de la rue Meilleur, secteur Chapanel, à Montréal. Leur invention est en instance de brevet. Le plastique contaminé est recueilli dans un gros panier ressemblant à une passoire. Une fois rempli, le panier est plongé dans un caisson transparent. La laveuse peut enchaîner des cycles de pression et de dépression pour chasser l'air et créer des bulles nettoyantes de liquide qui entre en contact avec les surfaces dans tous les interstices des outils et contenants de plastique. Une fois propre, le matériel est envoyé au séchoir à température tempérée, ni trop chaude ni trop froide. Fiona Milano explique que Phoenix Impact accepte les plastiques contaminés niveau 1, micro-organismes à faible risque vivant naturellement dans un organisme. Éventuellement, il sera possible de nettoyer le niveau 2. Agents biologiques pouvant provoquer une maladie chez les humains, salmonelle, E. coli, pathogène. En 2025, leur entreprise en démarrage a détourné 830 kg de plastique de l'enfouissement. Leur cible est ambitieuse, 12 tonnes de plastique par an, 54 tonnes d'équivalent dioxyde de carbone. Réutilisé 5 fois. On s'occupe entièrement du transport, ajoute Maxime Dimitstein. Chaque mois, nous nettoyons entre 125 kg et 150 kg de plastique contaminé. Ça représente environ 30 chaudières de 64 litres. Pour le moment, on estime qu'on peut réutiliser jusqu'à 5 fois le matériel nettoyé. Depuis le lancement, les jeunes entrepreneurs sont coachés par Paul Chenouda, conseiller principal en entrepreneuriat et innovation de Propolis, l'incubateur d'entreprises technologiques de Polytechnique Montréal, notamment pour planifier leur expansion. Fiona et Maxime ont eu une idée de génie, lance M. Chenouda. Je les accompagne depuis un an dans leur parcours de faisabilité. Montréal est reconnue comme une capitale universitaire. Ils sont un bel exemple de développement dans le domaine des technologies propres. Ils font notre fierté et sont invités de plus en plus à donner des conférences. Afin d'étendre leurs activités à des laboratoires privés et à d'autres villes, les entrepreneurs veulent acquérir de l'équipement capable de traiter de plus gros volumes. Entre autres, une méga-laveuse. Ils ont déjà obtenu du soutien de PME-MTL, le réseau de soutien aux entreprises de la ville de Montréal, et différentes bourses, et prévoit aussi solliciter d'autres fonds. Selon eux, il n'y a rien de comparable à leur invention dans le monde actuellement pour nettoyer les produits utilisés en recherche biomédicale. En savoir plus, selon une étude menée à l'Université d'Exeter en Angleterre en 2014, 5,5 millions de tonnes métriques, quantité de déchets plastiques produits chaque année par les laboratoires dans le monde, soit à peu près le poids de 67 bateaux de croisière. C'était « Le lavage s'invite en laboratoire », un texte de Sarah Champagne, paru le 22 décembre 2025 dans la presse.